Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Gisèle Cage.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Kapi. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Sans plus attendre, découvrons ensemble les titres qui marquent l'actualité de ce soir. Processus de paix Washington et Kinshasa au centre de manœuvre diplomatique entre la réunion stratégique RDC-Rwanda à Washington et la visite historique de l'émir du Qatar à Kinshasa. La région des Grands Lacs intensifie ses efforts pour accélérer l'application de l'accord de paix signé en juin et consolider la coopération régionale, deux événements majeurs qui témoignent d'une volonté commune de tourner la page des conflits. Crise humanitaire, le HCR contraint de fermer 30 bureaux en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Face au désengagement de plusieurs bailleurs, l'agence onusienne tire la sonnette d'alarme. Quelles conséquences pour les réfugiés déplacés internes, notamment en RDC? Nyokonde, directeur régional du HCR, nous livre son analyse et ses recommandations dans un entretien exclusif à suivre en fin de ce journal. Kinshasa accueille une visite de haut niveau. L'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, est arrivé ce vendredi pour sa toute première visite officielle en RDC. À son arrivée à l'aéroport international de Ndjili, il a été accueilli par le président Félix Antoine Tshisekedi et plusieurs membres du gouvernement. Le Qatar, rappelons-le, joue un rôle clé de médiation entre la RDC et l'AFC M23 dans le processus de Doha. Au programme des échanges avec le chef de l'État sur la paix dans l'est du pays et la signature de plusieurs accords de coopération. Avant Kinshasa, Sheikh Tamim a passé deux jours au Rwanda où il a rencontré le président Paul Kagame pour un tête-à-tête privé dans sa ferme de Kibugabuga. À Kinshasa, les deux délégations se sont rencontrées à la cité de l'Union africaine pour sceller ces accords stratégiques entre la RDC et l'État du Qatar. Toujours dans le cadre des efforts pour amener la paix dans l'est du pays et la région de Grand Lac, la RDC et le Rwanda viennent de franchir une étape importante. Le 19 et 20 novembre, Washington a accueilli la quatrième réunion du mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité. Autour de la table, les États-Unis, le Qatar, le Togo, médiateur mandaté par l'Union africaine ainsi que la Commission de l'Union africaine. Objectif: accélérer la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 27 juin dernier. Quels sont les points clés et les avancées concrètes? Martial Papimukeba nous en donne tous les détails.
Selon un communiqué du département d'État américain, la RDC et le Rwanda ont réaffirmé leur engagement à faire avancer l'ordre d'opération pour mettre en œuvre les concepts d'opération CONOPS du plan harmonisé visant la neutralisation des FDLR, le désengagement des forces et la levée des mesures défensives du Rwanda. Les observateurs ont salué les efforts des deux parties pour faciliter la démobilisation, les rapatriements et la réintégration des FDLR. La réunion a fait le point sur la première phase de l'ordre d'opération, notamment les partages des renseignements et les opérations de sensibilisation menées par la RDC pour inciter les FDLR à déposer les armes. La deuxième phase, centrée sur la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces et la levée des mesures défensives du Rwanda, a également été abordée. Les participants ont insisté sur la cohérence entre les processus de Doha et de Washington, saluant la récente signature de l'accord cadre de Doha entre les gouvernements et l'AFC M23. En fait, le communiqué précise que le Togo accueillera le 17 janvier 2026 une réunion de haut niveau pour consolider le processus de paix en RDC et dans la région des Grands Lacs, renforcer la confiance et faire progresser les processus. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Quittons donc Washington pour le Sud Kivu. Nuit agitée à Walungu, le chef lieu du territoire a été secoué par des tirs nourris entre jeudi et ce vendredi. Selon des témoins, des obus ont endommagé une partie de l'école primaire Walungu 2, connue sous le nom d'Epoa, perchée sur la colline au-dessus du stade de Mafundwe. Une maison en construction a été également touchée dans le village Kabikijwa. Quelle est la situation sur place? Richard Junior Kamunga nous en dit plus.
La population a été réveillée vers minuit par des crépitements de balles. En se réveillant ce vendredi, les habitants ont constaté d'importants dégâts sur une bonne partie de l'école primaire Walungu 2.
La nuit d'aujourd'hui, donc, à 0h, ici à Walungu Centre, la population a été déstabilisée par les crépitements des balles. C'était des obus qui étaient lancés cette nuit dans différentes directions. Une bombe est tombée sur une maison en construction dans le village Kabikwinja, à moins de 2 km du chef-lieu du territoire de Walungu. Il y a aussi une autre qui est tombée à l'épée de Walungu et qui a endommagé la porte d'une classe cette nuit.
Des jours auparavant, des combats ont opposé les Wazalondo aux rebelles des AFC-M23 dans plusieurs coins du territoire de Walungu, notamment sur l'axe Mugogo, Bideka, Walungu Centre et Kanyola. 3 morts à Mukoko, selon certaines sources, mais d'après la société civile, les bilans demeurent mitigés. Une accalmie apparente s'observe ce vendredi sur les lignes de front précitées. Cependant, les combats continuent autour du site minier de Karembu, à la limite entre Walungu, Mwenga et Shabunda.
En Ituri, les forces armées de la RDC et les casques bleus de la MONUSCO poursuivent leurs efforts pour protéger les civils contre les groupes armés. Le 16 novembre, les deux forces ont déjoué une tentative de reconnaissance menée par des éléments de la milice Convention pour la Révolution Populaire, CRP, près de Sanduku, à 45 km de Bunia. Ces miliciens qui tentaient d'observer la zone où se trouvaient des sites des déplacés ont été repoussés grâce à l'intervention rapide des FARDC des casques bleus, les contraignant à battre en retraite. Les explications avec le colonel Charles Idjiwa, officier de l'information publique de la force de la MONUSCO.
À la suite des coups de feu entendus le 16 novembre 2025 près de Sanduku, la MONUSCO a déployé une patrouille pour évaluer la situation, protéger les civils et appuyer les FARDC. Sur place, les casques bleus ont constaté que les FARDC menaient déjà une patrouille de domination des zones. Le commandant de la MONUSCO a été informé par son homologue FARDC de mouvements suspects attribués au CRP qui semblait effectuer une reconnaissance en vue d'une possible embuscade le long de la RN27. En réaction, les FARDC et la patrouille de la MONUSCO ont tiré quelques rafales pour dissuader toute approche, forçant les présumés éléments du CRP à se replier. Des renforts ont ensuite été envoyés depuis la base de la MONUSCO de Fataki pour établir une position de blocage et prévenir toute manœuvre hostile. La patrouille a également sécurisé les sites de déplacés de l'ODA pour éviter toute infiltration armée. Une fois la zone stabilisée, les casques bleus des palais et les FARDC ont effectué une patrouille conjointe le long de l'As, Sanduku, l'ODA pour vérifier les mouvements signalés et renforcer la sécurité des populations locales.
À Beni, les opérations conjointes se poursuivent dans le cadre de l'opération Safisha qui signifie nettoyer le 13 novembre, le casque bleu kényan, tanzanien et malawite de la brigade d'intervention de la MONUSCO aux côtés des FARDC ont mené des patrouilles de combat dans plusieurs localités, Mamové, Mapiki, Maboloko et Kilia. Kasaï Central. Dans la province éducationnelle Kasaï 2, les enseignants ont lancé une grève il y a 2 jours. Motif, 3 mois de salaire impayé, septembre, octobre et novembre. Conséquence directe, les élèves sont livrés à eux-mêmes. La FENECO, Fédération Nationale des Enseignants du Congo, appelle le gouvernement central à agir rapidement pour régler ces arriérés et permettre la reprise des cours. Les détails avec André Katende Ngalamouloumé.
Ça fait maintenant 3 jours que les enseignants de la province éducationnelle Kasaï 2, se trouvant dans les territoires de Mweka, Luebo, Ilebo et Dekese, ont décidé de ne pas enseigner les enfants. D'après nos sources, ces enseignants réclament le paiement des arriérés de 2 mois, septembre et octobre, ainsi que la paye du mois de novembre, qui tend vers sa fin. Félicien Lobomwamba, président de la Fédération nationale des enseignants du Congo, FENECO Kasaï, invite les gouvernements à payer ses enseignants pour permettre aux élèves de bien poursuivre avec le cours. La nouvelle société civile de Luebo craint que cela puisse avoir de l'impact sur la formation des enfants. Basile Mbanza, son coordonnateur, qui reconnaît aux enseignants le droit de réclamer leur salaire, les invite à occuper les enfants le temps pour le gouvernement de s'acquitter de son devoir.
La nouvelle société civile congolaise encourage les enseignants à rester résilients, à continuer à encadrer nos enfants malgré la souffrance. Nous sommes à vos côtés pour que vos droits soient rétabli.
Kananga, André Katendengala Mulume, Radio Kapi.
Au Katanga, la paix sociale est revenue à l'entreprise minière Chemaf. Après quelques jours de tension à Lubumbashi, les travailleurs de cette société inquiets à l'approche du 30 novembre, date butoir pour la cessation de toutes les opérations, y compris la production des cathodes de cuivre. Ils appellent cependant les autorités à leur trouver une solution idoine au risque d'être envoyés au chômage faute d'investisseurs. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Cette grogne a été maîtrisée à la suite des échanges entre les travailleurs en colère et les membres de la délégation syndicale de l'entreprise Chemaf. Alertés, ces syndicalistes se sont immédiatement rendus sur place pour apaiser cette tension, assurant que tout sera mis en œuvre pour que les droits des travailleurs soient protégés conformément au code du travail et aux lois de la République. La présidente de cette délégation syndicale a réaffirmé que des investisseurs sérieux sont en lice et n'attendent plus que les autorisations nécessaires pour entamer les négociations avec l'entreprise. Sidonie Taoudjiri.
Deux repreneurs sérieux, Jindal et Virtus, sont en lice. Mais ils n'ont toujours pas reçu les autorisations nécessaires pour ouvrir les discussions avec l'entreprise. Ce retard met gravement en danger les finances de Chemaf, déjà au rouge à l'approche de la date butoir annoncée.
Après les échanges avec les permanents syndicaux, les travailleurs de Chemaf se sont calmés et ont repris les activités dans l'espoir d'une réponse rapide des autorités. Même si l'implication du gouvernement congolais a été perceptible, aucune issue concrète n'a encore été enregistrée, laissant ses travailleurs dans l'incertitude. L'entreprise Chemaf est en vente depuis une année et les processus n'évoluent pas au risque de mettre en péril plus de 3000 emplois.
À Kinshasa, la Direction générale des impôts a organisé ce vendredi un impressionnant carnaval motorisé pour rappeler l'entrée en vigueur dès le 1er décembre de l'obligation d'émettre et d'exiger la facture normalisée. Ce document officiel de facturation électrique destiné aux entreprises assujetties à la TVA vise à sécuriser les transactions, lutter contre la fraude fiscale et améliorer la traçabilité des opérations. Sa mise en œuvre progressive marque une étape clé dans la modernisation du système fiscal et la transparence entre entreprises et administrations. Reportage signé Jocelyne Moussaou Pondé.
Parti de la place des évolués, le cortège a longé les grandes artères de la capitale, du centre financier jusqu'à la place Victoire, en passant par des zones à forte activité commerciale comme le marché central de Kinshasa ou le rond-point Willeri. Des équipes de la DGI clairement identifiées ont distribué des prospectus et échangé directement avec les contribuables, répondant aux questions les plus fréquentes sur cette réforme qui vise à sécuriser la TVA et renforcer la traçabilité des transactions. Lili Bilonda, directrice chef de service des études, statistiques et communication à la DGI.
Nous sommes en train de faire ce carnaval pour attirer l'attention de tous les opérateurs économiques assujettis à la TVA ainsi qu'à toute la population qu'à partir du 1er décembre 2025, l'émission de la facture normalisée à l'aide d'un dispositif électronique fiscal devient obligatoire.
Sur le terrain, le public salue une initiative jugée nécessaire pour lutter contre la fraude et améliorer la gestion des finances publiques. La Direction générale des impôts rappelle que l'entrée en vigueur de cette réforme est fixée au 1er décembre 2025.
Direction Maniema où se poursuit la campagne de réparation des fistules vésico-vaginales à l'hôpital général de référence de Kindu. Nous en sommes au troisième jour et déjà une dizaine de femmes ont été opérées sur les 70 attendues. Les autres patientes sont en file d'attente pour bénéficier de cette intervention qui redonne espoir. Cette initiative s'inscrit dans la lutte contre une pathologie qui touche des milliers de femmes en RDC. Florence Kizalunga s'est rendue à l'hôpital provincial où se déroulent ces opérations et nous propose ce reportage.
Plusieurs femmes porteuses de fistules accueillent bien cette campagne. Elles viennent de partout. C'est le cas de Madeleine Boissoussa.
Je suis venue de Pangui au village de Kantitoula. J'étais bien accueillie à l'hôpital général et je suis déjà opérée. Dieu nous a aidés. Je remercie.
Aziza Barouti, ayant réalisé plus de 20 ans avec cette maladie, remercie ses gynécologues qu'elle qualifie de sauveurs.
J'ai tellement souffert. Dieu m'a aidée. On m'a déjà opérée. Je remercie seulement Dieu. Merci beaucoup, je ne pouvais pas. Je n'ai ni père ni mère, je suis seule. Je remercie beaucoup. Je mange et j'ai les médicaments. Je demande aux mamans porteuses de fistules de venir à l'hôpital général en nous soignant gratuitement.
Sur place à l'hôpital, d'autres femmes qui sont en attente croient déjà à leur guérison.
Je suis ici à l'hôpital général. J'attends être opérée. J'ai une fistule. Je suis très très heureuse puisque je serai guérie car les gynécologues sont arrivés.
Sachez que ces interventions s'effectuent au bloc opératoire moderne douté par Moïse Katumbi. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rappelé vendredi 21 novembre que toute initiative visant à instaurer la paix en Ukraine doit impérativement respecter son intégrité territoriale. À la veille du sommet du G20 à Johannesburg, il a précisé lors d'une conférence de presse qu'aucun plan officiel n'a été formellement présenté par les États-Unis ou par une autre entité. Guterres a insisté sur le fait qu'un accord de paix doit être conforme à la Charte des Nations Unies et au droit international. Une solution en ligne avec ses principes respecterait également les résolutions de l'Assemblée générale qui affirme clairement que l'intégrité territoriale de l'Ukraine comme celle de tout État doit être préservée, a-t-il souligné.
L'invité.
Le HCR alerte sur une crise majeure. 30 bureaux enfermés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, y compris en RDC. En cause, les désengagements de plusieurs bailleurs qui ne tiennent plus leur engagement en faveur des réfugiés et déplacés internes. Pour en parler, nous recevons Nyon Kondé, directeur régional du HCR. Il partage son analyse et ses recommandations au micro d'Askin Zibia Tayoro à l'issue de sa mission officielle en RDC.
Monsieur Nyon Kondé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en visite en RDC, c'est une visite officielle depuis samedi et vous avez entamé une descente dans la province du Kasaï, précisément à Kananga. En quoi a consisté vraiment votre mission en République démocratique du Congo?
Donc, merci de me recevoir, merci de donner l'opportunité au HCR de s'exprimer à travers ma voix. Depuis le 1er octobre, nos opérations au Congo RDC sont gérées à partir du bureau régional de Dakar. Donc il était de bon ton que je vienne apprendre davantage de nos opérations, échanger avec les autorités qui sont les premières concernées, qui gèrent donc les questions de déplacement sur leur territoire, mais aussi aller à la rencontre des populations affectées par les questions de déplacement forcés et bien entendu échanger avec un parterre de partenaires pour comprendre ensemble comment est-ce qu'on peut continuer à travailler pour renforcer la protection des populations déplacées de force et au-delà, comment nous assurer qu'on puisse trouver des solutions.
Vous avez été à Kananga, on aurait appris que vous avez fermé la sous-délégation, comme vous l'appelez dans votre jargon. Pourquoi ?
Qu'on a été présent dans cette province depuis près de 9 ans, okay. À la suite des événements tragiques. Je ne me rappelle pas si je peux
Kamuina-Sapu.
Kamuina-Sapu, voilà. Qui a vu donc le déplacement de près de 1 300 000 populations, y compris à peu près 35 000 parmi eux qui ont traversé les frontières pour se retrouver du côté de l'Angola. Donc 9 ans après, aujourd'hui, en 2025, il y a énormément de travail qu'on a pu faire aux côtés de ces communautés, mais aussi des autorités. Donc pour nous, on pense et on estime que le travail a été fait, mais mieux, on a réussi aussi à capaciter des acteurs locaux. Donc on quitte, on ferme au mois de décembre, mais en fait, en réalité, on garde un œil, on est présent, donc on ferme le bureau, mais on reste présent autrement pour continuer d'agir au bénéfice des populations.
Alors, le nœud du problème, c'est quoi? C'est que vous n'avez plus d'argent.
Il y a cette réalité, on ne peut pas la nier parce que tout le monde sait à travers l'actualité que les acteurs humanitaires ont été énormément impactés depuis le début d'année à cause de la décision prise par certains bailleurs. Le premier bailleur pour nos opérations, ce sont les Américains.
Tout à fait.
Donc, les Américains pesaient à hauteur de 60%. 60% dans nos budgets pour nos opérations en Afrique de l'Ouest et centrale. Des bureaux ont été fermés dans la région, pas seulement ici au Congo. C'est près de 30 bureaux. Et pour le HCR, c'est énorme.
Là, c'est l'administration Trump.
Non, je dirais pas que c'est l'administration Trump. Je dirais que c'est la plupart des bailleurs. C'est la réalité aujourd'hui de ce que l'on voit un peu comme aide, que ce soit l'aide humanitaire. On le ressent rapidement parce que c'est là où il y a un besoin d'apporter une réponse urgente. et mais aussi tout ce qui participe à l'aide, l'aide publique au développement. Donc il n'y a pas que l'administration Trump, on le voit un peu partout. Et pour moi, c'est le lieu de lancer un appel aux bailleurs de rester engagés parce que les besoins sont énormes. Les populations dans ma région, dans la région Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, on parle de 4 millions de réfugiés, de 14 millions de déplacés internes qui sont en attente de solutions. Ce sont des populations dont les vies sont suspendues. Et on a besoin de soutien pour pouvoir travailler à reconstruire ces vies, à les ramener dans une forme de dignité.
Est-ce que le ACR sera en mesure de continuer son travail ou alors il va encore continuer à fermer d'autres sous-délégations?
Non, on espère que non. Ce que je peux dire, c'est que nous allons rester au Congo RDC. Le ACR ne quittera pas le Congo RDC. D'ailleurs, vous avez vu, à la lumière des négociations et des mécanismes de paix, le ACR a été nommément cité à côté d'autres acteurs. Cela exprime l'attente des autorités de nous voir rester engagés et jouer pleinement un rôle d'appui-conseil. Donc je peux vous garantir que le ACR restera. Mais là, on restera et peut-être qu'on va travailler différemment avec nos nouvelles approches.
Alors, vous avez fermé la sous-délégation des Kananga. Qu'en est-il vraiment des infrastructures?
On est en train, en ce moment, on en a discuté avec monsieur le gouverneur sur place, pour voir un peu ces infrastructures, qu'elles soient mobiles ou immobiles, qu'est-ce qu'on va en faire? Ce que nous faisons, c'est de renforcer les acteurs locaux pour que ces acteurs restent en capacité de pouvoir faire le travail.
Monsieur Nyong Kondé, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Nyong Kondé, directeur régional du HCR, qui nous a éclairé sur les conséquences de la fermeture de 30 bureaux en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, dont la RDC. Une décision liée au retrait de plusieurs bailleurs face à l'aide aux réfugiés et déplacés internes. Ainsi s'achève ce journal sur Radio Okapi, mise en onde Jean-Claude Nsiala, coordination Jude Mister Bilonda, la présentation Gisèle Cage. Merci infiniment pour votre fidélité à notre station. Restez connectés avec nous via WhatsApp grâce aux liens disponibles sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Retrouvez également nos articles détaillés sur notre site www.radiocapi.net. Nous vous souhaitons une excellente soirée et espérons vous retrouver très bientôt sur la même fréquence.